Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc à cette rencontre autour d'un livre écrit par Fleur, ici présente, qu'on remercie d'avoir accepté notre invitation. Son nom de scène, c'est La Parisienne Libérée. Vous l'avez peut-être vu sur Internet et ses vidéos maintenant sont diffusées sur des médias indépendants. Actuellement, c'est sur Bastamac, c'est ça? Avant, c'était sur Mediapart. On va avoir un petit moment de lecture travaillée par Fleur et Mimoso. Et ensuite, on pourra débattre autour du livre. Donc, Le nucléaire, c'est fini dans une petite demi-heure. Merci.
Merci beaucoup Fabrice pour la présentation. Bonsoir à tous. Donc effectivement, on a eu envie de vous lire des extraits parce qu'on trouve que c'est la meilleure manière de vous faire entendre le texte. On sait aussi que les lectures, ça peut être un peu monotone. Donc on a travaillé un petit set où on est à deux voix. Donc certains textes, je vais les lire. D'autres, c'est lui qui va les lire. Pour dire les choses, qui fait quoi. Donc c'est moi qui ai écrit ce livre, mais je l'ai écrit sur la base de discussions et de documentations qui ont été largement faites par Mimoso. Donc c'est moi qui ai fait le livre, mais il n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas tout ce travail aussi qui est fait à deux. Donc en fait, La Parisienne Libérée est un duo. Voilà, c'est le premier scoop de la soirée. Je vais commencer par vous lire le début du livre. Le sceptre nucléaire. Le nucléaire français est apparu il y a plusieurs décennies de cela, lorsque le sol de l'Élysée fut magiquement frappé par le sceptre d'un souverain général d'armée, hybride géant du roi Soleil et du gendarme de Saint-Tropez. Vous avez reconnu le général de Gaulle, évidemment. En faisant ce choix de grande planification, le pouvoir a tout de suite fait savoir aux populations que, loin des considérations quotidiennes de fin de mois, il raisonnait, lui, en termes de décennies, siècles et millénaires, imposant sa majestueuse et définitive temporalité. Le choix du nucléaire, militaro-civil comme son inspirateur, a été fait sans nous, qui n'étions pas nés, mais également sans nos parents, ni grands-parents, qui n'ont guère été consultés et ont subi une intense propagande nationaliste autour du thème de la nécessaire indépendance énergétique du pays. Face à la détermination martiale des gouvernements sur ce sujet, il a parfois pu sembler vain de s'insurger et, de façon corollaire, il a parfois pu paraître raisonnable de faire confiance à l'État ou, du moins, de s'accommoder de ses pratiques. De faire avec, quoi. Pourquoi s'attaquer à une question sur laquelle il ne nous est laissé aucune prise? N'est-ce pas un genre de lutte perdue d'avance? Après tout, sommes-nous experts en physique nucléaire? Non. En stratégie énergétique et guerres internationales? Non plus. La bonne vieille croyance qui voudrait que l'État nous protège, malgré les multiples occasions qui nous sont données de nous rendre compte de la fausseté de cette maxime, consolera peut-être certains. D'autres ne seront pas dupes, mais prendront simplement acte de cette impuissance, du caractère démesuré de l'adversaire. Le nucléaire en France, c'est à la fois l'armée et l'électricité qui chauffent l'eau de nos douches. Dans ces conditions, que faire, sinon s'y résoudre? Ainsi, depuis les années 50, les Français ont été fortement incités à considérer le risque nucléaire comme acceptable, parce que le pouvoir, dans la continuité de ses incarnations successives, et par l'entremise de son sceptre nucléaire, l'avait d'ores et déjà accepté pour eux. Quand en octobre 45, De Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique, il n'envoie pas une petite brochure scientifique et philosophique à toutes les ménagères pour savoir si elles y consentent ou pas. Il signe l'ordonnance 45-25-63, et puis c'est tout. Et lorsqu'en mars 74, le gouvernement Pompidou décide la mise en chantier des centrales actuelles par la voix de Pierre Messmer, ce dernier se contente de s'asseoir sur un plateau de l'ORTF, où Jean-Marie Cavada lui pose des questions convenues. le Premier ministre n'a plus alors qu'à tourner légèrement la tête pour se positionner face caméra au moment de l'annonce et dire « Nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons décidé de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. » Aussitôt dit, aussitôt fait, nucléaire, jacta et... Un problème surgit au détour de cette histoire. La distinction entre « État de France » et « EDF » est largement factice. Il en résulte une situation de confusion générale où les deux entités se contrôlent elles-mêmes et entre elles, s'expertisent en interne, tout en présentant au public deux acteurs alors qu'il n'y a finalement qu'un seul personnage à jouer. Ce personnage, l'État nucléaire, est d'une nature politique qui n'a pas été, il me semble, caractérisée avec assez de clarté. Voilà, donc ensuite, je présente le plan du bouquin. Donc, en très résumé, il y a quatre parties. Dans la première partie, je fais le point sur l'actualité du nucléaire, où est-ce qu'on en est, et en particulier sur les processus de faillite qui sont en cours en ce moment dans ce secteur du nucléaire. Puis il y a une deuxième partie où je réfléchis aux questions de responsabilité, c'est-à-dire en fait c'est une deuxième partie sur l'accident, mais pas tellement de savoir s'il va avoir lieu ou pas, mais savoir comment ça s'organise en fait un accident, qui c'est qui le paye. Et donc là il y a toute une découverte en fait que j'ai fait en écrivant des chansons et puis en faisant le livre qui montre qu'en fait il n'y a pas d'assurance dans le nucléaire et que les exploitants EDF, Areva, enfin ex-Areva, Orano, le CEA sont responsables de seulement 0,02% d'un coût d'accident majeur. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Puis, il y a une troisième partie qui s'appelle les récits radioactifs, où là, j'explique pourquoi ce sujet m'intéresse et je raconte un petit peu ma vie. Donc là, c'est plus une partie littéraire. Puis, il y a une dernière partie qui s'appelle « Soyons inconfinables », qui réfléchit à la notion de confinement. Voilà, en très très gros. Donc, on va vous lire maintenant, dans les récits radioactifs, un petit passage. Il y a quelques années, j'étais chroniqueuse à Arrêt sur Image et je devais chanter la catastrophe de Fukushima. Et donc, à chaque fois, j'avais 3-4 jours pour préparer les chansons. C'était un peu sportif comme exercice. Et donc, je regardais la télévision et je regardais un petit peu comment était traité ce sujet. Et j'ai trouvé intéressant de retranscrire dans le livre une interview qui a eu lieu aux 20h où il y avait Anne Lauvergeon qui répondait aux questions donc de David Pujadas.
Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste ?
Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça, c'est la version positive. Je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire.
Alors même qu'elle prononce ces mots, une vidéo malencontreuse s'affiche en vignette, juste à côté de son visage. On y voit l'explosion du réacteur numéro 1 et de son épais nuage radioactif, contredisant directement Atomic Anne, qui poursuit néanmoins sa démonstration.
Nous sommes effectivement un petit peu entre les deux. Les 55 réacteurs japonais, au moment du tremblement de terre, se sont tous arrêtés d'urgence, comme il est prévu. Il n'y a eu aucun problème, et visiblement d'ailleurs, pas de conséquences significatives du tremblement de terre.
Elle avale sa salive avec un peu de peine, il me semble. Certains mots sont parfois difficiles à prononcer, même lorsqu'on a l'habitude de communiquer comme on respire. En venant sur ce plateau, sa mission consiste à faire comprendre aux Français qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle typiquement asiatique. Que ce tsunami, comme son nom même le suggère, est d'un type lointain, qu'on ne saurait connaître en France. Que le risque sismique, qui lui est par ailleurs présent et répertorié sur plusieurs centrales françaises, n'a pas été déterminant dans le cas de Fukushima. Malheureusement, à ce moment précis, l'argumentaire pourtant simple, inscrit encore une seconde auparavant dans son esprit entraîné, se brouille brutalement, ne laissant échapper de sa bouche que quelques bribes mal articulées, diffusées à l'accéléré.
Par contre, derrière, le tsunami a été une hauteur sur Fukushima qui n'était pas prévue par les gens qui ont construit ces centrales. Donc, la situation aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'alimentation...
Non, Anne, ne parle pas de l'alimentation.
Une fois que le réacteur est arrêté...
Zut, c'était quoi déjà la suite ? Ah oui, Tchernobyl. Comment articuler ? Trop tard, on enchaîne.
D'ailleurs, on n'est pas du tout dans la situation de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est un réacteur qui fonctionne et qui explose. On est tous mentalisés là-dessus.
Elle fait ensuite plusieurs fois le même geste avec les mains, indiquant que notre esprit porte des sortes d'œillères. Elle sourit. Apparemment, ça lui plaît de nous dire qu'on est tous mentalisés sur quelque chose de précis. Une vieille histoire de catastrophe russe, elle aussi impossible dans notre pays, vu que la France n'est pas l'Union soviétique tout de même.
On a tous été traumatisés par Tchernobyl. Donc immédiatement, on a ça en tête. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les réacteurs sont arrêtés, mais que les combustibles que se trouvent à l'intérieur doivent être refroidis.
Est-ce qu'on va y arriver d'après vous, d'après les informations que vous avez ?
Alors, sur le 1 et le 3, effectivement, TEPCO a su trouver les moyens de mettre en place l'eau pour refroidir...
Et une fois que c'est fait, ça signifie que ça va refroidir, forcément ?
Ah oui, tout à fait. Ah oui, 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 oui.
Son visage s'éclaire. Anne Lauvergeon est heureuse.
Mais oui, bien sûr que ça va marcher. Il est amusant avec ses doutes, ce petit présentateur. Vous ne croyez tout de même pas qu'on s'amuse à envoyer des hélicoptères militaires verser de l'eau salée sur des unités qui sont en train d'exploser pour rien du tout ? Que nos grandes lances à eau et nos hommes aussi vaillants qu'ingénieux qui risquent leur vie dans une opération extraordinaire font tout cela sans que nous soyons absolument assurés de notre victoire ?
De fait, à l'heure où Anne Lauvergeon s'exprime si affirmativement, la situation sur place est désespérée.
Voilà, ça continue. Il y a toute la retranscription de l'entretien et les commentaires intermédiaires. C'était un grand moment de télévision nucléaire, où David Pujadas lui a sauvé la vie un certain nombre de fois. D'ailleurs, voilà, il est encore en ligne si vous voulez le regarder. C'était le 20h qui a suivi. Ça devait être le 13 mars, je crois. Heureusement, c'est pas le genre de choses qui pourrait arriver en France, parce qu'en France, tout est sous contrôle.
Le 14 avril 2016 à 13h, pendant une opération de maintenance, les travailleurs de la centrale nucléaire de Paluel, située sur la côte normande, sonnent l'alarme. Un incendie s'est déclaré sur la connexion électrique d'un ventilateur en zone nucléaire. Mais tout est sous contrôle, et conformément à la procédure, les pompiers présents sur place débranchent le ventilateur, puis tentent d'éteindre le feu à l'aide d'un extincteur. Ils n'y parviennent pas. À 13h15, le plan d'urgence interne est déclenché. À quelques kilomètres de là, un camion de sapeurs-pompiers s'élance, avec à son bord des hommes spécialement formés à ces situations et du matériel adapté pour y faire face. Tout est sous contrôle. En quelques minutes, les pompiers arrivent sur place, entrent dans l'enceinte de la centrale nucléaire et s'élancent vers le bâtiment d'où provient la fumée. Hélas, le conducteur évalue mal sa vitesse, se laisse impressionner par l'urgence, pense à autre chose une fraction de seconde, croise un obstacle imprévu, qui sait. Le camion rate son virage, bascule, puis se couche sur le flanc. Il glisse dans un fracas métallique avant de s'immobiliser. Accident de pompier. Il y a toujours le feu dans le bâtiment électrique du réacteur 2. Sur les 6 sapeurs-pompiers présents dans le camion, 5 sont blessés. L'un d'eux est évacué vers l'hôpital de Dieppe. Tout est sous contrôle. Fort heureusement, si vous n'avez jamais entendu parler de cette mésaventure, c'est parce que, vers 14h, un second camion de pompiers est parvenu à éteindre l'incendie du ventilateur. Le plan d'urgence interne est levé à 15h30. EDF communique et dit, bien sûr,
tout est sous contrôle. Voilà, donc ça c'était un accident qui a eu lieu à la centrale de Paluel juste avant qu'il y ait un énorme générateur qui soit tombé en fait. Je sais pas jusqu'à quel point vous connaissez ces histoires, mais enfin voilà, le mois suivant il y a un générateur, un truc énorme qui est tombé pendant une opération de maintenance, enfin qu'on appelle le grand carénage, et qui est resté bloqué presque un an en fait dans la centrale de Paluel. Ça c'était le grand lancement du nouveau programme français pour réparer les centrales nucléaires. Ça commençait assez mal. Et il y a 2 semaines, on a appris que ce générateur qui a donc coûté plusieurs centaines de millions, je crois qu'on est approché le milliard, pour réparer cet incident. Ce générateur est sur la liste des générateurs qui ont des défauts de fabrication et qui donc, c'est pas sûr qu'ils puissent continuer à fonctionner. Voilà. Alors du coup, la question qui vient assez souvent, c'est de savoir, la question qu'on nous pose et qu'on se pose aussi, c'est si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Alors voilà une courte lecture qui est un extrait d'un chapitre qui est voilà une sorte de tentative de réponse. La transition énergétique n'aura pas lieu. La fermeture progressive et raisonnée des centrales, la substitution ingénieuse de nouvelles sources d'énergie inoffensives aux dangereux minerais d'uranium et de carbone, ce doux spectacle d'un monde promis qui flotte dans l'air du temps, des lois, des discours et débats télé comme un mirage multicolore au-dessus d'un avenir radioactif gravé dans du béton gris, cet arc-en-ciel fleuri d'innovations harmonieuses et libératrices ne nous sera pas donné à contempler. Au contraire, nous assisterons aux tentatives chaotiques et désespérées de l'État nucléaire pour faire tourner ces vieux moteurs de guerre le plus longtemps possible. Nous le verrons acheter des terres aux alentours des centrales existantes dans l'espoir d'annoncer de nouveaux chantiers, comme à la Belle Époque. Nous le verrons réprimer, blesser ses opposants politiques, procéder à des surveillances oppressantes pour défendre son droit à affréter des trains absurdes, creuser des piscines ineptes et des galeries criminelles. Les centrales arrêtées resteront là, on les dira en cours de démantèlement. Dans le même temps, apparaîtront des méga-champs d'éoliennes implacables, construites en dépit du bon sens. Il faudra se battre contre des transformateurs infernaux, à l'échelle des besoins surdimensionnés de nos vies sous haute tension, toujours avec la même logique, toujours dans la même folie de l'immense, de l'imposé, du ravageur. Nos amis les plus fortunés rouleront en voiture nucléaire pour sauver la planète, et ils n'aimeront pas qu'on les critique. L'État ne renoncera pas de lui-même à son pouvoir d'exécuter. Les entités privées privilégiées qui ont pignon sur l'Élysée ne développeront pas leurs offres pour répondre à nos besoins, mais bien pour satisfaire les leurs, comme elles l'ont toujours fait. N'y aurait-il donc aucune perspective d'avenir, en dehors du monde policé de l'atome ? À défaut de transition heureuse, quelles bonnes nouvelles pourrions-nous mettre au crédit collectif du temps qui passe ? En voilà une, qui devrait réchauffer nos cœurs et rapprocher les clans. Le climat est antinucléaire, et sa lutte promet d'être sans merci. Il est extrêmement puissant, lourdement armé, redoutablement brutal, et lui non plus ne négocie rien avec ses adversaires, se contentant d'imposer sa volonté par la force pure. Le vieux monde n'a aucune chance. Donc, là, bien juste après un chapitre qui s'appelle « Le climat est antinucléaire », où en fait je raconte la rencontre entre Florence, qui était un ouragan, enfin une grande tempête, et une centrale nucléaire sur la côte est des États-Unis, qui a eu lieu l'année dernière, en septembre 2018. C'était assez impressionnant, j'ai suivi ça heure par heure, jour par jour, pendant une dizaine de jours, j'avoue que ça fait vraiment réfléchir. Donc voilà, je vous raconte pas tout le détail, c'est le chapitre entier qu'il faudrait lire, c'est trop long. Mais en gros, au niveau du climat, il y a un premier risque, un premier problème qui se pose, qui est un peu intuitif, c'est les inondations. Donc ça provoque des coupures de courant, ça on peut l'imaginer facilement, mais aussi au Blayais, par exemple, en 99, il y a eu des grandes inondations, et il y a eu des détritus qui se sont retrouvés charriés. Et ça a bloqué ce qu'on appelle la prise d'eau, c'est-à-dire l'endroit où l'eau rentre pour pouvoir refroidir la centrale. Ça veut dire qu'en pleine inondation, le 2 ou 4 des réacteurs du Blayais ont failli péter parce que la centrale n'était plus refroidie, en fait, il n'y avait plus d'eau qui arrivait dans la centrale. Voilà, donc les inondations, c'est vraiment un problème, et toutes les centrales sont situées soit au bord d'un grand fleuve, soit au bord de la mer. Donc, dans des périodes de changement climatique, c'est un souci. Il y a aussi les vents qui peuvent aussi couper l'électricité. Et il y a les problèmes de sécheresse. Ça, c'est un peu moins intuitif, mais une centrale, c'est pas vraiment on/off. Enfin, c'est pas un interrupteur. Alors, à chaque fois qu'il y a des sécheresses, on est obligé d'arrêter les centrales ou de baisser leur puissance dans un premier temps, puis de les arrêter. Et ces périodes où on éteint et où on allume les centrales, c'est les périodes où il y a le plus de dangers et de problèmes techniques qui peuvent se poser. Donc quand ils disent c'est pas grave, on maîtrise avec les sécheresses, etc., c'est pas vrai. Et plus généralement, en fait, le dérèglement climatique se caractérise par le fait qu'il y a de plus en plus d'imprévisibilité. On ne sait pas comment le climat va évoluer. Et là, il y a EDF qui n'arrête pas de dire « oui, mais tout était prévu ». Sauf que, en fait, les centrales qui tournent en ce moment, c'est des centrales qui ont été conçues dans les années 70. Donc le dérèglement climatique, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et même les EPR, qui sont censés être le nouveau nucléaire, la suite, etc., ont été conçus après Tchernobyl, donc dans les années 90. Et à cette époque là non plus, il n'y avait pas les marges de prise, il n'y avait pas de connaissance du changement climatique, qui reste d'ailleurs assez largement mystérieux. Hein. Donc voilà, une série de choses auxquelles réfléchir par rapport à toute cette propagande intense qu'on subit autour du thème que le nucléaire va sauver le climat, qui est une propagande très française en fait. Alors toujours dans la série des making-of, on va vous lire un court extrait d'un moment où je reviens en fait sur l'affaire dite de Tarnac. Parce que c'est une histoire qui a un lien avec le nucléaire, ce qui n'est pas toujours clair dans l'esprit de tout le monde. Donc on vous lit juste la toute fin. Ce 11 mai 2009, Libération revient sur la revendication allemande des sabotages ferroviaires.
Les crochets comme ceux qu'on a découverts sur les lieux des sabotages des lignes TGV, on en trouve sur le réseau ferré allemand depuis 1994. Les Hakenkralle, littéralement le crochet qui s'agrippe, qui mettent hors d'état les caténaires au passage des trains, sont apparus cette année-là en marge de la résistance contre l'acheminement des déchets vers Gorleben.
Hakenkralle. Je me répète le mot à voix haute comme s'il devait avoir sur moi un effet magique. Hakenkralle. Ainsi, le crochet de Tarnac aurait été le premier Hakenkralle français ?
Par ailleurs, si le coup de filet de Tarnac s'est vendu au box-office de la presse française comme un inédit sous le nom d'opération Taïga, il ressemble fort à un mauvais remake tricolore de l'offensive policière lancée en 1999 contre des militants radicaux de Hambourg lors d'une opération intitulée Crochet Doré. Un activiste de Hanovre détaille.
Les policiers l'ont désigné sous le nom de Golden Hakenkralle, crochet doré, parce qu'ils avaient entendu deux militants sur écoute qui parlaient d'offrir un crochet doré à un ami pour son anniversaire. Mais ça n'était qu'une blague.
La procédure allemande, en revanche, n'est pas particulièrement divertissante pour les activistes visés, puisqu'elle est conduite par les services de l'antiterrorisme.
Fort heureusement, elle se termine par un non-lieu en 2005. Eh bien, soupir Mimoso, j'espère que ça ne prendra pas aussi longtemps pour Tarnac.
Ça a pris 10 ans.
Voilà, c'était même plus long. Alors, ça va vous tenir le coup le côté lecture je vois pas Dieu trop fermé, on dirait que vous êtes là, ça va. Il y a toute une partie dans le livre qui j'avais de toute façon décidé qu'il y aurait une partie du livre consacrée aux luttes antinucléaires et à leurs récits. Et je pensais au début faire un travail sur Golfech, parce qu'il y a beaucoup de documentation. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une lutte très intéressante au Pays Basque, qui n'est pas très loin du tout de la France, hein, à peine une centaine de kilomètres, une centrale qui s'appelle Les Moïs ou Les Monis en espagnol. Et donc, ce qui devait être simplement un petit paragraphe dans le bouquin a pris de l'ampleur au fur et à mesure que je me suis documentée sur cette lutte. Et ça a donné finalement une sorte de livre dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine de pages sur la lutte au Pays Basque pour empêcher la centrale de Les Moïs de démarrer. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une centrale qui existe. Elle est en l'état. Elle est finie. Simplement, il n'y a jamais eu de combustible dedans. Et s'il n'y a pas eu de combustible dedans, c'est parce qu'il y a eu une lutte extrêmement intense qui a duré presque 10 ans, en fait, si on prend depuis le début des travaux jusqu'à l'abandon. Voilà, donc une partie de ce texte-là est écrit sous forme épistolaire, un échange de lettres entre Eki, le soleil, et Lily, la fleur, où Eki envoie des lettres à Lily pour lui raconter cette lutte et comment ça s'est passé. Et au milieu, vous avez plein de documents qui ont été traduits. J'ai travaillé surtout à partir de documents espagnols et un petit peu en basque, qui sont des documents d'archives. Il y a des photos, etc., de l'époque. Et d'ailleurs, il y a... un exemplaire, s'il y a même parmi vous qui lisent l'espagnol, il y a un exemplaire d'un livre rare qui se trouve là, à l'entrée, Los Pulsos de las Intransigencias, pardon pour la prononciation pourrie. S'il y en a que ces sujets intéressent et qui parlent l'espagnol, sans vous battre, procurez-vous-le et passez-vous-le. C'est un livre d'un militant libertaire de Bilbao qui apporte un éclairage historique très intéressant sur cette lutte-là. Donc j'ai eu bien du mal à trouver un exemplaire et donc j'étais bien contente de voir qu'il était là à notre arrivée. Voilà. Donc là on va vous lire la toute fin, c'est la dernière lettre d'Eki. Voilà, c'est la toute dernière lettre d'Eki.
On raconte souvent que Les Moïs a été arrêté parce que ETA a fait des attentats. C'est une façon de voir les choses. Il faut bien se rappeler, en tout cas, que les assemblées populaires, les voisins, les familles, ont été vraiment antinucléaires, et cela dès le début. Ce sont ces collectifs qui se sont organisés de façon autonome à l'échelle des quartiers, qui ont proposé des réunions, des actions, qui ont fait front. Ensuite, il y a eu une phase de lutte très intense, pendant laquelle les comités locaux, les travailleurs, les municipalités, les commandos, la commission de défense, les écologistes, d'un coup, tout le monde est passé à l'action. Et comme tu t'en doutes, tout le monde n'a pas poussé, dans le même sens. Encore heureux d'ailleurs. Il y a eu en permanence, et c'est bien normal, des discussions, mais aussi des dissensions majeures entre les composantes des mouvements de lutte. Et très régulièrement aussi, des scissions internes à chacune des composantes. Mais Lemoïs est tombé. C'est incroyable, n'est-ce pas? Lemoïs est tombé. La non-nucléarité actuelle est fragile. Un coup de vent et hop, c'en est fini du pays non-nucléaire. Il y a ici tant de zones où il pleut à verse, tant d'endroits où on trouve brebis, lait, champignons, forêts, ce genre de choses qui craignent les nuages radioactifs. Tu te représentes, Lily, si Lemoïs avait démarré? Tu imagines l'état de la côte basque actuellement avec 6 réacteurs, les pieds dans l'eau, à quelques encablures de Bilbao? Quel enfer, mais quel enfer! J'ai hâte de lire tes notes. Je t'embrasse. Eki.
Voilà, donc en fait, j'ai découvert aussi au passage qu'il y a deux autres centrales comme ça en Europe, des centrales qui sont entièrement construites, mais qui où il n'y a jamais eu de combustible dedans. Il y en a une en Allemagne qui a été abandonnée après une très grande lutte antinucléaire aussi. Et il y en a une en Autriche qui a été abandonnée dans des circonstances qui paraissent un peu fantastiques vues depuis la France, puisque c'était le grand programme nucléaire autrichien. Ils étaient très contents d'avoir leur première centrale. Et ils ont fait, comme la loi le prévoyait, un référendum qui a donné 50,5% de non. Et donc, ils ont abandonné. Ça semble surréaliste. Et du coup, l'Autriche a été assez loin en inscrivant la non-nucléarité de son pays, enfin, en se déclarant comme pays non nucléaire. Dans un premier temps, ça a été inscrit dans un texte de loi local, puis ça a rejoint la loi fédérale, enfin, je me mélange dans les lois, mais au niveau le plus élevé législatif, en fait, l'Autriche est un pays non nucléaire.
Dans la Constitution, non?
Voilà, c'est ça. C'est, d'abord, c'était dans les lois, et ensuite, c'est dans la Constitution. C'est un pays non nucléaire. Et toute la lutte de Lemoïs, que je raconte dans le bouquin, c'est pareil, en fait, tout était organisé autour de l'idée de faire une côte basque non nucléaire et d'avoir un pays non nucléaire, en fait. Et il faut quand même se rendre compte qu'on parle un petit peu de cette centrale. Je sais pas si parmi vous d'autres, enfin, s'il y en a qui connaissaient cette centrale. Oui, quelques personnes en avaient entendu parler, mais ou la connaissaient bien. Mais par contre, on sait plus rarement qu'il y avait un grand plan franco, et en fait que au niveau du Pays basque, c'était la première des centrales qui devaient être construites. C'était 2 réacteurs, hein, à Lemoïs. Si cette centrale avait été construite, il y avait 3 autres centrales qui étaient prévues sur la côte et une à l'intérieur des terres. Donc, sur la côte, simplement, c'était entre 5 et 13 réacteurs à terme qui pouvaient être mis sur quelques dizaines de kilomètres, hein. C'est une côte avec, vraiment une côte de pêcheurs. Maintenant, c'est vraiment des petits villages, c'est des espaces touristiques et c'est tout près de Bilbao, la grande ville basque, hein. Donc, ça a stoppé net, en fait, la nucléarisation du Pays basque. Et il y a eu aussi à Peyrehorade, donc tout près de Bayonne, il y avait un projet. Donc, normalement, Bayonne devait avoir sa centrale, hein. S'il n'y avait pas eu cette lutte, Bayonne avait sa centrale, je connais pas par cœur la géographie, mais je crois que c'est à 40 km à peu près de Bayonne, hein.
Il y avait des grandes manifs.
Oui, c'était, bon, c'est un peu long de, on peut en rediscuter pendant le débat si vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a eu des manifestations très impressionnantes en termes de nombre. Le Pays basque, si on le considère comme une entité, comme un pays, ça fait 3 millions d'habitants. Il y a eu des manifestations, plusieurs manifestations à plus de 100 000 personnes, 150 000, c'est certain. Si on faisait le ratio avec la France, c'est des manifs antinucléaires à 3 millions de personnes. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver un jour. Donc voilà, et ça correspondait en fait avec la mort de Franco. Du coup, c'était les premières grandes manifestations autorisées. Et au Pays basque, beaucoup de gens étaient antinucléaires. Et encore aujourd'hui, il reste une forte culture antinucléaire. De retour à Bure, dans l'infinie horizontalité de la Meuse et de la Haute-Marne, dans la pure verticalité du pouvoir de l'atome, nous surprenons l'état nucléaire qui s'active, absorbé par la préparation de sa sépulture, Cigéo, un projet pharaonique d'enfouissement profond aux sonorités mortuaires.
Le centre industriel de stockage géologique n'est pas arrivé ici en solitaire. Le nucléaire a déjà fait son labo.
Tisser ses toiles d'entreprise.
Dépêcher ses hélicos.
Ses fourgons.
Ses machines.
Ses hommes d'influence et ses budgets sans fin.
Offert équipements et locaux aux municipalités candidates.
Distribuer droits de chasse et bail agricole.
Et semer la zizanie dans tout le voisinage. Il s'est installé.
Pour l'instant, on n'entend pas trop creuser et il n'y a pas de matière radioactive sur le site. L'heure est à l'étude.
Face à cela, des opposants tiennent sur place une présence collective, ont racheté des maisons, organisé des rassemblements, investi le bois le jus et connu ensemble de beaux moments de poésie.
des murs sont tombés, des vidéos sont apparues sur la toile, légères, ensoleillées, dansantes, puis d'autres encore, enneigées, comme autant d'images de lutte et de saison. Mais d'où vient cette idée d'enfouissement et à quoi sert-elle? Donc là, pareil, pour pas vous endormir trop rapidement, on peut pas tout le chapitre, mais en gros, il y a une réflexion sur l'idée que cet enfouissement, en fait, c'est le centre d'enfouissement peut être considéré comme on parle de bure, hein, bien sûr, comme le dernier avatar d'une série d'installations née de la grande promesse historiquement non tenue du nucléaire, le confinement des matières radioactives industrielles. Et donc là, je réfléchis à la notion de confinement, puisqu'en gros, on nous dit que quand la situation est normale, les matières radioactives sont confinées et nous, on est libres. Et quand la situation est accidentelle, hein, je mets des guillemets, les matières radioactives sont relâchées, libérées, et nous, on doit se confiner. Je trouvais intéressant qu'on utilise le même mot, et je suis partie de ce constat-là pour définir une société, ce que j'envisage comme une société du confinement, et appeler à un déconfinement général. Voilà, de nous, bien sûr. Et le livre, vers la fin, j'ai trouvé important, se termine en fait par une sorte de petit lexique où je prends des mots et que je considère qu'ils sont des mots contaminés et je fais un travail pour les décontaminer. Donc il y a toute une sorte de petit dictionnaire où je propose de réfléchir à tous ces mots qu'on utilise sans trop savoir, sans trop réfléchir au fait qu'ils ont une origine industrielle. Et donc je réfléchis à uranium enrichi, électricité nucléaire, efficacité énergétique, parc nucléaire. Ça serait parc, quoi. C'est quand même, c'est pas un parc, le nucléaire. C'est un parc, c'est vert. Enfin, c'est... piscine nucléaire, propre, et il y a décontamination. Deux rendez-vous qui tombent en même temps?
Il suffit de décommander l'un d'eux.
Une porte fermée qui ne devrait pas l'être?
Hop, c'est réglé, on la déverrouille.
Une maille oubliée?
On détricote le rang.
Un coup d'éraflé?
On désinfecte.
Des mauvaises herbes envahissantes au fond du jardin?
On débroussaille.
Un compte mail devenu inutile?
On désactive.
Des milliers d'hectares contaminés pour des centaines de milliers d'années autour de Fukushima?
On décontamine.
Comme si c'était possible. Comme si mettre un masque anti-poussière et passer un jet d'eau sur les murs d'une maison contaminée par la radioactivité suffisait à la rendre à nouveau habitable. La vérité, c'est qu'on contamine, oui, mais on ne décontamine pas.
Ce qui est contaminé, le reste. Tout au plus, arrive-t-on à déplacer quelques-unes des particules émettant les rayonnements assassins au prix d'efforts titanesques en les promenant d'un toit vers un méga-container collectant les eaux utilisées pour la décontamination et donc elles-mêmes contaminées. Au mieux, on parvient à transporter le sable contaminé d'un jardin public vers un grand bac à sable, dans un centre de stockage durablement provisoire qui va libérer progressivement son poison. Mais on ne décontamine pas.
Il reste de la radioactivité partout, aussi bien là où on en a enlevé un peu que là où on en a remis beaucoup. La radioactivité n'est pas propre et pourtant ne se nettoie pas.
N'est-ce pas la preuve qu'il nous faut de nouveaux mots pour penser cette nouvelle chose qui n'existait pas il y a encore un siècle et qui désormais existera pour toujours?
Dernière page, un poème qui s'appelle « Lettre de rupture ». Je t'ai aimé jadis d'une belle passion. La nuit était propice aux tendres effusions. Je marchais dans la ville et chaque réverbère me fredonnait tranquille un refrain de lumière. Je t'ai aimé jadis et n'aurais jamais cru qu'un jour cela finisse, qu'un jour je sois déçu, que de toi je me lasse, que je n'en puisse plus. Mais tu vois, le temps passe et ce jour est venu. Je t'aimais autrefois d'une passion diffuse. Jamais je n'avais froid, tu réchauffais ma muse. Dans l'hiver rigoureux, collé au radiateur, nous partagions, heureux, une douce chaleur. Je t'aimais simplement, presque sans y penser, et depuis si longtemps que j'aurais pu rester comme noyé dans la masse de nos vies quotidiennes. Mais entre nous, hélas, c'est de l'histoire ancienne. Je t'aimais autrefois, avec tant d'insouciance, et je comptais sur toi. Quelle folie quand j'y pense. Je n'imaginais pas les dangers encourus. Tu t'es moqué de moi, on ne m'y prendra plus. Tes châteaux de béton nous séparent à jamais. Lassés des illusions de nos vies confinées, je te quitte aujourd'hui, le cœur plein de griefs. Notre histoire est finie, EDF. Voilà, donc on a tenu à peu près la demi-heure, hein, on n'a pas trop dépassé. Va y avoir un petit moment d'échange. Je précise simplement pour que ça soit clair que l'échange est enregistré. Simplement, a priori, ils vont pas prendre les questions, mais ils vont prendre les réponses. Je dis ça pour que vous puissiez vous poser vos questions tranquilles. Voilà, mais je préfère quand même le dire. Oups, pardon. Non, peut-être.
Merci Fleur. Donc j'avais préparé un certain nombre de questions. Tu as répondu à pas mal de questions. En tout cas, on va plutôt laisser la place aux échanges. Je voudrais quand même que tu reviennes sur ce projet. Tu as travaillé sur le nucléaire depuis une bonne dizaine d'années. Enfin, en tout cas, à travers Astrid et la météo du nucléaire. Je crois que ça a commencé en 2008. Et donc tu as dû accumuler pas mal d'informations sur le sujet. Donc il y aurait aussi une question là-dessus, savoir comment tu allais chercher cette information, si elle est disponible, comment y accéder, nous, grand public. Comment tu as travaillé la forme, on l'a vu, qui est assez originale du livre. Je pose deux, trois questions comme ça, tu peux... Comment tu as travaillé cette forme et comment t'es venu finalement l'idée de ce livre, alors que tu avais déjà beaucoup travaillé sur le sujet avec un autre format.
Je commence par la dernière, peut-être, parce que ça permet de dérouler les autres. Il y a eu... en fait, c'est vrai que j'ai fait pas mal de chansons anti-nucléaires. T'as le droit de rester là. Il y a eu pas mal de chansons anti-nucléaires. En fait, j'ai accumulé beaucoup de documentation au fur et à mesure. Enfin, comme tout le monde, j'ai commencé par faire des chansons tristes, hein, parce que le nucléaire, c'est pas un sujet super gai à la base. Attention, parce que le livre n'est pas triste. Mais je me suis rendu compte que déprimer tout le monde, c'était pas la meilleure manière de mobiliser de l'action et de qu'en gros, la joie, ça marchait quand même mieux que le désespoir. Et donc, j'ai fait des chansons non pas forcément marrantes, mais disons plus toniques. Et j'ai commencé à travailler des sujets assez compliqués, par exemple ces histoires de responsabilité civile, c'est-à-dire qui paye l'accident, qui est responsable, etc. Et je crois que c'était en 2014, j'ai fait un entretien avec une chercheuse, dont il y a aussi l'excellent livre juste à côté de celui de Sto et Stebranza, là, qui s'appelle « La France nucléaire », c'est par Cézine Topsu, qui est un très très bon livre pour rentrer dans la question de l'histoire des luttes antinucléaires. Et donc, j'ai fait avec elle un long entretien sur tout ça, et ça a donné naissance à une chanson qui s'appelle « Arithmétique de l'accident nucléaire », et où j'ai senti clairement les limites de la forme chanson. C'est-à-dire que là, j'avais beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à dire, et en fait, dans une chanson, ça marche mieux si on dit une seule chose, mais s'il y a quand même un sentiment général, et si on dit quelque chose. Quand on commence à faire du raisonnement, des démonstrations et tout, la forme chanson souffre un peu. Donc ça donnait une chanson dont j'étais pas complètement satisfaite, une sorte de tango électro qui marchait, je trouvais, moyennement, et dans laquelle j'avais l'impression d'avoir pas complètement réussi à expliquer ce que j'avais expliqué. Donc là, c'est la deuxième partie du livre, et entièrement née de cette chanson, par exemple. La première partie du livre est née du travail beaucoup d'Astrid, et donc la météo nucléaire, pour ceux qui savent pas ce que c'est un personnage avec une perruque blonde très funky, qui commente tous les accidents qu'il y a dans les centrales nucléaires. Et là, je me documentais beaucoup sur le site des autorités, donc l'autorité de sûreté nucléaire essentiellement, l'ASN, et puis les sites d'une coordination d'associations, donc Sortir du nucléaire, qui s'occupe aussi de lire les communiqués d'EDF. Et puis j'allais beaucoup sur les sites d'EDF, en fait. Je passais du temps dans tous ces... Alors c'est vraiment infernal à consulter, parce qu'il n'y a pas un endroit dans EDF qui récapitule en fait les incidents en cours. Il faut aller à chaque fois sur la page du mini-site de chaque centrale, la sous-page actualité, et là vous avez les communiqués d'EDF qui en général disent rien, à peu près rien. C'est-à-dire c'est des communiqués types qui permettent juste de savoir s'il y a eu un problème à telle centrale, en gros sur telle partie de la centrale, et parfois les communiqués tombent 5 jours après. Globalement, les communiqués tombent quand le problème est réglé, ce qui est un problème en soi. Donc la première partie, c'est beaucoup sur les faillites et sur les problèmes techniques. Ouais, et les seuls qui font, t'as raison de le rappeler, les seuls qui font le travail de suivre un petit peu les incidents, les accidents et ce qui se passe dans les centrales, parce qu'il y a plusieurs centaines de problèmes techniques chaque année, et depuis que je le suis, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression que ça augmente, c'est peut-être le vieillissement des centrales aussi, tout simplement. Donc il y a énormément de problèmes, que j'appelle accidents, même si EDF refuse d'appeler ça accident, ils veulent appeler ça incident, tant que c'est pas sur la partie de la... Enfin, ils ont fait une échelle, on a le droit de parler d'accident qu'en haut, enfin, sur les échelons supérieur, mais bon, j'appelle accident ce que je veux. Donc c'est des accidents, il y en a beaucoup en fait, et y compris des plans d'urgence interne avec des incendies. On raconte un peu l'histoire du camion, mais il y a plusieurs fois par an des plans d'urgence interne, plusieurs fois par an des contaminations de travailleurs, plusieurs fois par an des vrais problèmes. Il n'y a que la presse régionale qui en parle un tout petit peu. avec le problème, avec le même problème que moi, qui est que, ben, en fait, ils ont pas trop accès à de l'information et que quand ils vont voir EDF, EDF leur récite leur communiqué. Donc la plupart du temps, les articles dans la presse régionale, c'est des ressucés purs et durs des communiqués d'EDF, soit parce qu'ils n'ont pas fait le boulot d'aller chercher l'info, soit parce qu'on n'a pas voulu leur donner. Ils sont pas très bavards. Donc voilà, dans tes questions...
M'entends, oui. Non, mais justement, comment ça fuite, en fait les accidents, il y a une obligation de les déclarer, c'est ça c'est,
Oui, en fait, EDF doit dire... Billet. EDF doit déclarer à l'ASN... Donc l'autorité de sûreté nucléaire, les problèmes qu'elle rencontre, et ensuite l'ASN peut prendre des mesures, peut demander un certain nombre d'actions à faire, etc. Donc il y a un moment dans le bouquin où je rigole, c'est au moment du Blayer en fait. Il y a eu très peu d'informations quand il y a eu l'accident du Blayer, et en fait EDF avait dit mais enfin je comprends pas, vous dites qu'on l'a caché ça pendant je sais plus c'était 5 ou 6 jours, enfin c'est sorti au JT le 5 ou 6 janvier alors que les problèmes avaient eu lieu à toute fin de l'année, et en fait ils ont répondu mais si tout était disponible, c'était sur le serveur Minitel Magnuc, voilà. Donc en fait le principe en fait c'est que tout est disponible soi-disant, enfin, il y a des sortes d'éléments qui sont mis en ligne, mais sur des canaux assez spécialisés, et à moins d'être branché H24 sur le serveur Minitel Magnut, ben, on n'est pas au courant. Voilà.
Pourquoi le titre, en fait, est provocateur ? Le nucléaire, on a l'impression qu'on a appris pour quelques milliers d'années. Le nucléaire, c'est fini ou pas, du coup ? Pourquoi avoir choisi ?
Alors, le titre complet, ça serait « Le nucléaire comme source d'électricité ». Donc comme industrie source d'électricité, c'est fini. Ça c'est pas provocateur, c'est un constat objectif et mondial. Je sais qu'on est en train d'annoncer ou d'annonçouiller des plans Messmer 2, enfin une nouvelle série de PR qui ferait le nouveau nucléaire en France. La France est totalement isolée, mais totalement isolée au niveau international, au niveau européen dans cette politique. Il n'y a plus guère que vaguement l'Angleterre et la Finlande qui essayent encore de faire ça. La tendance générale, c'est quand même d'arrêter le nucléaire, parce que le nucléaire s'est développé sur l'idée qu'il n'y aurait pas d'accident, même s'ils savaient déjà quand ils l'ont dit que c'était faux. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux accidents, les coûts augmentent. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux accidents, ce qu'ils appellent de ce mot horrible, l'acceptabilité, diminue aussi. Donc en gros, ça coûte extrêmement cher. Et d'un point de vue industriel, le nucléaire, c'est vraiment fini. Donc s'ils annoncent des trucs en ce moment, c'est juste pour retarder la faillite d'EDF. EDF a besoin... pour pas tomber, parce qu'elle a des dizaines de milliards de dettes, a besoin qu'on annonce des grands projets de PR. Le problème, c'est que si on se bouge pas du tout, ils vont les faire, hein, parce qu'ils vont les annoncer. Et le simple fait qu'ils vont devoir les financer, même s'ils démarrent pas ces réacteurs, parce qu'il y aura peut-être un accident entre-temps, ou parce qu'il y aura eu des faillites, même si ça démarrait pas, ces projets vont absorber l'ensemble de l'argent public disponible. Et donc là, pour le coup, il y aura vraiment pas de transition énergétique. Je veux dire, il y aura pas d'autres possibilités de produire de l'électricité, et il y aura pas non plus de réflexion sur la notion de besoin, quoi. C'est-à-dire, c'est bien de vouloir toujours produire et de réfléchir comment on substitue les sources l'une à l'autre et tout, mais il faut aussi avoir un travail de réflexion sur les besoins en électricité. Voilà, c'est provocateur, mais pas complètement. En fait, le nucléaire, c'est une énergie ringarde. C'est un vieux truc en béton. D'ailleurs, ils osent même plus... D'abord, ils faisaient leurs interviews dans leur centre de commande, là, sérigraphié et tout. Il y avait des ingénieurs, ils étaient super fiers de montrer la modernité. Maintenant, ils osent même plus rentrer dans les centrales tellement ça a l'air vieux et catastrophique. Même les nouvelles centrales, on voit tout de suite que c'est quelque chose du siècle passé, en fait, hein. C'est très lourd, c'est très cher. Et donc maintenant, ils se mettent dehors pour le plus loin possible en essayant de pas trop montrer la centrale dans le champ. Enfin, voilà.
Donc le nucléaire comme source d'électricité, c'est fini. Mais on n'en a pas fini avec la radioactivité. Tu en as parlé un petit peu du confinement. Quand on est mal informé, je pense, on pense que les moyens techniques mis en œuvre et la technologie actuelle permettent de se préserver pour de longues années. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous dire deux mots du constat que tu fais ou que les gens qui s'y connaissent font des conditions dans lesquelles les déchets radioactifs sont conservés?
Alors, il n'y a pas que la question des déchets, en fait. Il y a qu'un parc ce qu'ils appellent un parc nucléaire, c'est-à-dire un ensemble de centrales nucléaires en fonctionnement, produisent de façon régulière des relâchements de radioactivité. C'est pas le truc étanche qu'ils veulent nous faire voir. Enfin, l'image de la cocotte minute qu'ils aiment bien, elle est pas mal en fait, parce qu'on voit bien dans une cocotte minute, ça sort. Donc en fait, c'est pas vrai que les matières sont complètement confinées. Il y a des problèmes industriels qui font qu'il y a des fuites. Il y a des fuites dites normales, c'est-à-dire par exemple à La Hague, il y a des relâchements vraiment réguliers et importants de radioactivité, de gaz radioactif, etc. Donc déjà, il faut arrêter de se dire que la dispersion dans l'atmosphère, c'est en cas d'accident. En fait, c'est la situation normale. Ces industries crachent de la radioactivité. Par ailleurs, il n'y a pas que les industries d'électricité. Il y a eu comme des essais nucléaires qui ont été importants pendant des dizaines d'années. Et au jour d'aujourd'hui, on trouve encore de façon assez importante du césium qui est resté de tous ces essais aériens. Donc il y a eu de la radioactivité industrielle qui a été déposée un petit peu partout en France et qui est encore plus forte d'ailleurs sur les zones montagneuses. Parce que c'est là où il y a beaucoup de pluie. Donc c'est dans tous les massifs, dans les Pyrénées, il y a des dépôts de césium qui sont plus importants que dans les plaines, par exemple. Donc il faut s'enlever de la tête l'idée que la radioactivité est dans les centrales. Et ensuite, au niveau des déchets, ils n'arrêtent pas de mentir sur les durées. Mais après, est-ce que c'est très important? Moi, il y a un scientifique qui un ami, qui un expert et tout ça, qui m'a dit « Oh, tu te fais avoir, tu parles de centaines de milliers d'années, c'est n'importe quoi, c'est des millions d'années qu'il faut dire, parce que ça change tout, parce que c'est le temps géologique, et du coup, c'est pas du ressort d'un état. » Enfin, voilà, toute une discussion, il faut juste se dire, moi, j'ai une approche plutôt sensible et philosophique de ces questions, donc pour moi, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que c'est juste infini. C'est juste infini. Donc le livre ne s'appelle pas « La radioactivité, c'est fini ». Il dit juste que, à un moment donné, que c'est terminé. La production de ces choses est en train de se terminer pour la partie civile, ce qu'ils appellent civile, c'est-à-dire pour la partie électrique, qui était l'alibi de l'industrie nucléaire réelle, qui est une industrie militaire.
Une petite dernière question avant de laisser la parole au public. On a grandi, ma génération en tout cas, avec le mythe d'une industrie qui serait très française. Et nous fleurons de l'industrie française qui s'exporte et garant de l'indépendance énergétique française. Tu démontes cette idée-là dans ton livre, tu peux nous expliquer pourquoi?
Ouais, alors ça, tous les gens qui travaillent quand même sur le nucléaire le savent, mais le grand public a moins cette notion-là. Toutes les centrales nucléaires qui fonctionnent actuellement en France sont des centrales Westinghouse, donc des centrales nucléaires américaines. Il n'y a pas une seule centrale de conception française qui soit actuellement en fonctionnement. La filière française a été abandonnée en 69, au grand désespoir du CEA qui l'avait promu pendant très longtemps. Donc en fait, ce sont des licences qui ont été concédées, c'est-à-dire que toute la conception est américaine. Puis on trouve plein de reportages de propagande de l'époque dans l'INA, d'ailleurs, si vous voulez regarder. Ces réacteurs ont été francisés, ils appellent ça. En gros, ils ont pris les plans et ils les ont construits en France. Donc ça a été construit par des entreprises françaises, mais ce sont des réacteurs américains. Et la preuve que c'est des réacteurs américains, c'est par exemple à Paluel, quand il y a eu le générateur de vapeur qui est tombé. EDF a dit pas de problème, on va s'en occuper, on va débarrasser tout ça. Et ils ont pas su comment faire, ils ont pas trouvé, ils ont passé des semaines puis des mois. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils ont fait allô Westinghouse, on a un problème, on a un générateur qui est par terre, est-ce que vous pouvez pas venir nous aider? Et du coup Westinghouse, associé avec une autre entreprise du Pays-Bas, est venu et a réussi à sortir le générateur. Puis Westinghouse International a fait faillite. En 2015. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le constructeur et le concepteur de toutes les centrales françaises a fait faillite. Et Areva l'a suivi d'ailleurs quasiment la même année. C'est logique puisqu'Areva était en fait la firme française faite pour construire et diffuser ces modèles-là. Donc en fait, c'est vraiment une industrie américaine. On peut même considérer les réacteurs nucléaires comme, la nucléarité de la France. Comment dire ça? On peut même considérer la France comme une colonie nucléaire des États-Unis.
Et sur l'indépendance énergétique, on est dépendant aussi de l'uranium qu'on trouve.
Ouais, alors au début, c'était allé très loin, puisque même dans les premiers contrats, Westinghouse obligeait la France à acheter l'uranium aux États-Unis. Donc pour l'indépendance énergétique, c'était le moment de toute la période de Gaulle, puis ensuite le plan Messmer sous Pompidou, etc. Là, carrément, on disait dans les télévisions, c'est l'indépendance énergétique de la France, et on achetait des centrales américaines, et on avait même des contrats qui nous obligeaient à acheter de l'uranium américain. Donc pour l'indépendance énergétique de la France, il faudrait repasser. Et ensuite, tout l'uranium a été extrait dans des pays qui sous des régimes coloniaux, donc essentiellement en Afrique. Et là, il y a un super bouquin à lire absolument sur ces questions-là, de Gabriel Hecht, Uranium, une histoire africaine, qui montre vraiment, qui va pays par pays et qui raconte les conditions d'extraction de l'uranium. Une fois que vous avez lu ça, vous ne pouvez plus jamais utiliser l'argument de l'indépendance énergétique, et vous ne pouvez même plus du tout justifier cette industrie l'idée même que ce soit une industrie française ou une industrie propre. Ces deux axes-là ne tiennent plus du tout une fois qu'on a lu ce livre. C'est un très bon livre que je vous conseille.
Peut-être compléter par en disant que cette idée d'indépendance énergétique, elle a été utilisée comme un argument à l'époque de propagande ou de publicité, au moment où il y a eu la crise du pétrolière en 72-73 là. Mais en fait, les plans de construction étaient bien antérieurs. En fait, ils étaient déjà ils avaient déjà l'idée de construire ces réacteurs nucléaires bien avant la crise pétrolière. Donc c'est un argument un peu de circonstance de l'époque de la construction, qui est resté après par une inertie propre à cette industrie.
Oui, le nucléaire comme solution au problème pétrolier, c'est juste un mensonge historique qui reste assez largement répandu. Et là, c'est aussi la chercheuse Céline Topsu qui l'explique bien.
Juste une dernière remarque, parce que j'aimerais juste qu'on en dise un petit mot au moins, et puis on verra si dans l'échange. C'est la question de la responsabilité, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'est la responsabilité d'EDF en cas d'accident majeur et les sommes en jeu. Bon, déjà, la question du chiffrage des dommages d'un accident majeur peut poser problème. Mais la responsabilité des acteurs privés je sais pas quel est le statut d'EDF, ouais, c'est en train de changer. Mais quelle est la responsabilité des acteurs du nucléaire est faible, enfin excessivement faible. Tu peux nous expliquer?
Oui, alors rapidement, parce que c'est toute la deuxième partie, donc ça serait. Mais en gros, il y a eu des études de l'IRSN. Il y en a eu d'autres depuis, mais malheureusement, elles sont pas publiques. Il y en a une en 2007 qui n'a été rendue publique qu'en 2013 suite à une fuite dans la presse, pour vous dire le niveau de transparence de l'industrie d'une façon générale et des autorités aussi. Il y a eu donc un travail fait par l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui chiffrait les différents scénarios d'accidents. Donc ce que nous on appelle une catastrophe, ils appellent ça un accident nucléaire majeur. Et donc il y a eu plusieurs chiffrages différents, mais même en prenant celui qui est raisonnable, je veux dire que eux ne présentent pas comme le plus élevé, les chiffrages allaient de 70 milliards à 5 800 milliards, et finalement se resserraient sur deux fourchettes, un qui serait cher à 720 milliards d'euros et un qui serait moins cher à 430 milliards d'euros. Donc on va partir de celui qui est pas cher. Comme ça, soyons optimistes. Mettons que l'accident nucléaire majeur coûte 430 milliards d'euros. Je vous dirai après pourquoi ce chiffre est très largement sous-estimé. En fait, il y a une loi en France qui date de 1968 qui limite la responsabilité civile des exploitants nucléaires, donc Areva, EDF, enfin Orano, EDF et le CEA, à 91,5 millions d'euros. Donc en cas d'accident, EDF doit payer 91,5 millions d'euros. Ensuite, il y a un petit truc qui est prévu avec des conventions internationales, genre tous les pays nous aident si on a un problème, etc. On arrive avec ces accords internationaux à 300 millions d'euros. Donc, vous voyez, 430 milliards, on est quand même encore assez loin. Et ensuite, ensuite, c'est nous qui payons. C'est-à-dire que ensuite, il n'y a rien qui dit que l'État doit payer quoi que ce soit. Et donc, techniquement parlant, dans les zones accidentées, ce qui se passe, c'est qu'on finance ces accidents, nous les populations, nous les gens, quoi, essentiellement par le fait qu'on doit soi-même partir de certaines zones sans que ces déplacements soient financés. Donc il n'y a pas d'organisation d'évacuation de financement suffisante. On le finance aussi par des pathologies non prises en charge. Donc tout ça n'est pas hyper joyeux, mais enfin voilà, en gros c'est ça. On tombe malade à cause de l'accident et l'industrie explique que ça n'est pas parce que on avait un problème avec le nucléaire, mais c'est sans doute parce qu'on fumait ou pour d'autres raisons. Et donc ce cancer ou ces handicaps aussi, parce qu'il y a beaucoup de handicaps dans les régions autour de Tchernobyl, ne sont pas reconnus comme des accidents nucléaires. Et donc les gens doivent se démerder. Donc ça fait encore moins d'argent à verser. Et donc ben, finalement, il n'y a pas vraiment de choses qui soient prévues. Donc l'idée que l'État nous protège, là, elle est... enfin, en ce moment, on est déjà beaucoup amené à remettre en question cette idée-là. Quand on regarde l'actualité politique, on n'a pas vraiment l'impression que l'État nous protège. Mais sur la question nucléaire, c'est très très net, l'État ne nous protège pas du tout. L'État a protégé la mise en place de l'industrie nucléaire et c'est tout, en fait.
Radio Livre.